Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer de découvrir une nouvelle venue à Montpellier. On peut penser que dans quelques temps, ce sera probablement une figure de la vie culturelle de la ville. C'est Luce Lebar, la nouvelle directrice artistique du pavillon populaire. Luce Lebar, merci d'avoir répondu à mon invitation. Habituellement, je présente mon invité en quelques mots, mais arrivé en janvier dernier, ici, vous êtes une inconnue. Nous allons améliorer votre notoriété en présentant à grands traits votre parcours d'historienne, de commissaire d'exposition et de responsable d'institutions culturelles. Vous avez fait vos études notamment à l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Qu'est-ce qui a suscité, on va en parler, votre double orientation, la photo et l'histoire, le croisement de ces domaines?
Mais bonjour, merci pour l'invitation. Je dirais que c'est quelque chose qui vient de très loin, puisque j'ai découvert la photographie à partir notamment de la photo de famille, puisque j'ai une famille... une partie de ma famille qui vient d'Afrique du Nord, et on avait à la maison une grande malle dans laquelle étaient regroupées des photos de famille.
Donc dans laquelle vous aviez fouiné quand vous étiez petite.
Piocher, fouiller, j'ai passé beaucoup de temps. Et puis j'ai découvert la photographie aussi par les expositions qu'il y avait à la FNAC, à Paris, dans les FNAC, puisqu'avant, il n'y avait pas de lieux, comme il y en a beaucoup maintenant, comme la Maison européenne de la photo, comme le pavillon populaire en France. Et j'y allais en tant que lycéenne, pendant les pauses, découvrir comme ça les grands photographes et la collection aussi photopoche. Je me suis toujours intéressée aux images, à la photographie, aux photographes, et puis comment les partager, que ce soit par le biais de l'écriture, que ce soit par le biais des expositions, par le biais aussi d'actions de médiation, d'être en relation avec les publics, etc. Donc oui, ce qui m'intéresse.
C'est et on va voir ça de manière
un
peu précise. Alors, vous connaissez déjà Montpellier. De 2007 à 2010, aux archives départementales de l'Hérault, vous avez été responsable de ce qu'on dénomme les fonds figurés. Alors, chers auditeurs, qu'est-ce que c'est les fonds figurés? Tout simplement, c'est les dessins, les cartes, les plans, les gravures, les cartes postales et bien sûr les photos. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque d'il y a une quinzaine d'années? Souvenirs personnels ou professionnels, ou cette rémanence de Montpellier dans votre mémoire?
Ça a été une étape très importante dans mon parcours, parce que aux archives, il y a beaucoup de photographies. C'est pour ça que j'avais été intéressée par travailler là. Notamment aux archives de l'Hérault, on conserve les fonds, par exemple, de la mission Racine, la grande commande, il y avait une commande photographique.
Donc, une grande opération d'aménagement du littoral, la création des nouvelles stations, la grande mode pour Camargue, etc.
Et plein de fonds, donc figurés. C'était intéressant de penser la photographie en lien avec les autres médias, avec la gravure, avec les plans, avec les maquettes aussi. Et surtout, je pense que j'ai aussi appris une méthode et une approche, une déontologie de la photographie, puisque j'ai aussi travaillé dans des musées, dans des collections de photos de bibliothèques et de musées. Et puis, les archives, c'est un autre univers. Et en archives, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, qui irrigue toujours toute mon approche des images, c'est qu'on est très démocratique. Ça veut dire qu'on traite de la même façon toutes les photographies, tous les documents.
Il n'y a pas de jugement esthétique ou autre sur l'intérêt que présente une photo.
On peut en avoir, mais ce n'est pas ce qui régit le fait que des fonds rentrent dans les archives. En fait, en archives, quelle que soit la polarité, que ce soit un négatif, que ce soit un positif, que ce soit une image d'un auteur très connu, ou que ce soit une photographie d'un anonyme, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, toutes les photographies ont le droit de citer. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, les archives, par sédimentation, elles ont accueilli des collections extraordinaires de photographes qu'on réinvente par après. Et toute l'histoire de la photo, c'est souvent une histoire de fond de tiroir. On retrouve un corpus. Elle s'est construite comme ça, l'histoire de la photo. Eugène Adjé, par exemple.
Par hasard, souvent.
Par hasard, parce qu'en fait, il y a beaucoup de production, parce que la photographie, elle n'est pas qu'un art, elle n'est pas qu'une science, elle n'est pas qu'une technique, elle est tout ça à la fois. Et donc, on peut retrouver un corpus, on va dire, d'un photographe montpelliérain aérien, qui a fait la photo aérienne, et le revisiter aujourd'hui avec un autre regard. Il se dit, mais en fait, oh, il avait...
Je vais vous donner un nom de photographe aérien. Il s'appelait Ossuru.
Oui, je le connais bien, voilà. parce qu'il a beaucoup photographié la Grande Motte et l'aménagement, l'aménagement du territoire. Et relire, en fait, c'est, l'histoire, c'est ça, c'est relire avec un peu de recul, le recul de nos regards d'aujourd'hui, relire des choses qui sont parfois oubliées ou qui sont mises de côté, etc.
Alors, définition de votre métier au passage, hein, puisque vous avez précédé une question que j'avais posée, hein, j'avais dit, est-ce que c'est le goût de la découverte et le plaisir de la transmission qui vous anime, mais vous venez de nous le dire. Ouais. Alors, on poursuit. Vous avez écrit une vingtaine de livres, deux ouvrages de référence, « Les grands photographes du XXe siècle » et également « Une histoire mondiale des femmes photographes ». Mais vous avez aussi d'autres livres, vous êtes intéressé à d'autres sujets. Quels thèmes vous a inspiré et donc vous ont conduit à écrire d'autres livres que ces sommes?
Alors, j'ai un intérêt particulier pour les photographies qui sont pas forcément produites dans un contexte artistique, donc scientifique, documentaire, familial aussi, les corpus familiaux, tout ça. Donc, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui a rapport avec la nature, le paysage, aussi, évidemment, l'archive, et puis aussi les... Enfin, disons tout ce qui est un petit peu mésestimé. Alors, ça peut être. C'est pour ça qu'avec mon amie Marie Robert, qui est conservatrice en chef au Musée d'Orsay pour la photographie, on a fait ce livre sur les femmes photographes. En 2020, il a été ensuite publié en anglais chez TMC Hudson en 22, en invitant 150 autrices du monde entier à écrire sur 300 photographes femmes, des débuts de la photo, de l'origine jusqu'à nos jours. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient on n'est pas les seules à s'en être rendu compte, mais
ignorées,
absentes, exactement.
Ou mieux méconnues.
Ignorées des histoires de la photo qui commencent toujours par les grands maîtres de la photo. Et vous comprenez que les grandes maîtresses, c'est moins. On utilise moins ce terme. Voilà. Et puis je m'intéresse beaucoup à la photo contemporaine aussi, mais en lien avec le passé, ce qui un peu irrigue mon travail.
Une espèce de fil conducteur.
Voilà, c'est ça, c'est ces liens entre le présent et le passé. Parce que quand je m'intéresse à des images du passé, la première expo qu'on va voir en juin,
on va en parler,
c'est toujours en lien avec le contemporain, parce que le passé, le futur est derrière nous, le passé est avec nous, etc. Et voilà.
Très bien. Alors, toujours un parcours là, rapide, mais qui permet quand même de donner des points de repère sur ce que vous avez pu faire. Parmi les institutions où vous avez œuvré, figure notamment l'Institut canadien de la photographie, Archive of Modern Conflict et ses collections privées. Vous avez assuré des directions artistiques, photographie européenne à Reggio di Calabre, et Amsterdam, à plusieurs reprises, vous avez été commissaire d'exposition dans deux des grands rendez-vous de dimension mondiale, les rencontres photographiques d'Arles, retour à Arles, où vous y avez fait vos études, je l'ai dit, et ainsi que le mois de la photo à Paris. En quoi cette activité internationale, rapidement décrite, nourrira-t-elle votre programmation dans les expos du Veillon populaire que vous allez concevoir prochainement? Quelle est la source que vous trouverez dans cette connaissance?
D'abord, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau de possibles pour à la fois favoriser des prêts, des prêts d'œuvres, favoriser des sujets d'exposition, des circulations des expositions. Et puis, c'est aussi mettre en place, du coup, des partenariats, des collaborations, à la fois sur le territoire et à l'échelle internationale. Par exemple, pour l'expo d'été, on a fait une collaboration, un partenariat avec le Grand Arles Express. Donc, l'exposition va être dans le programme des rencontres d'Arles, du Festival international de photographie d'Arles, cette année, parmi 8 ou 9 autres expositions du Grand Arles Express. Donc, on est très heureux. C'est la première fois, c'est une grande première. Et ça va nous permettre aussi de... favoriser une circulation avec, parce que vous savez qu'à Arles, pendant les mois d'été, il y a un peu tous les passionnés de photos du monde entier,
en effet, oui.
Mais aussi le grand public qui vient. Et là, on va pouvoir drainer, attirer à Montpellier, au pavillon populaire, des gens qui, des fois, ne font pas forcément le détour parce qu'on va à Arles pour aller à Arles.
Bien sûr.
Et l'idée, c'est vraiment, avec l'énergie des rencontres qui sont vraiment ravis de cette collaboration, de favoriser des ponts.
Mais voilà, une information importante. C'est le réseau Luce Le Bart, quand même, qui se met en route. Là,
un exemple. Mais Gilles Morat était aussi très proche des rencontres. Et d'ailleurs, il a fait une très belle... Il est un des premiers à avoir fait une expo sur Lucien Hervé, le photographe qu'on va mettre à l'honneur pour la saison d'hiver.
Donc, il y a une filiation là, entre vous et votre prédécesseur.
Exactement.
Alors, vous le savez, il y a un petit incise dans cette émission. Donc, avant que vous nous racontiez votre activité, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, question, quel est le lieu de Montpellier, connu ou méconnu, que vous appréciez particulièrement et que vous recommandez à vos amis de passage? Suspense.
Alors... quand vous me posez cette question, la première chose à laquelle je pense, c'est au jardin botanique.
Oui.
Mais quand je l'ai connu, il y a plusieurs années, qui était un peu plus sombre, qui était... j'ai pas ce souvenir. Là, j'y retourne régulièrement, il est lumineux, etc. Mais au fond, moi, à Montpellier, ce que j'aime le plus, c'est pas un lieu précis, c'est ce qu'il y a entre les lieux. C'est les espaces un peu de... Ces moments où on traverse la ville,
ouais.
où on a des entrées de lumière, on a des rencontres avec des couleurs de pierre. Enfin, ces moments entre. Ça, c'est... Mon Montpellier, c'est ça.
C'est un univers visuel, comme
vous
décrivez.
Oui, et c'est
là,
une joie. C'est aussi lié à la lumière et à la chaleur, à comment elle vous touche. C'est sensoriel aussi. Et puis, en vrai, pour vous répondre le plus justement possible, pour moi, le lieu à visiter à Montpellier, c'est évidemment le pavillon populaire.
Ah, écoutez,
c'est par là qu'on arrive, c'est par là qu'on part.
On aurait été déçus. Alors, on va donc enchaîner sur ce lieu, que beaucoup de Montpellierens, vous le savez, fréquentent. Il y a des gens, je l'ai vu en revoyant l'expo de Pardon, très différents, d'âge, de vision, de conditions. Alors, vous avez découvert, dans retour à vos caractéristiques, qu'il y avait un lien entre l'histoire de la photographie et le pavillon populaire. Racontez-nous, c'est quoi ce lien?
Alors, déjà, pendant 14 ans, Gilles Morat a fait programmer plusieurs expos par an qui ont vraiment marqué l'histoire du pavillon et de la photographie. Et avant ça, il y avait aussi de la photographie. Moi, comme j'ai travaillé, vécu à Montpellier avant 2011, arrivée de Gilles Morat, il y avait déjà des expositions à Montpellier.
Roland
Laboye, de photos.
C'était Roland Laboye, un photographe, un photojournaliste d'ailleurs,
exactement.
Qui était devenu commissaire.
Et qui animait aussi. Donc l'histoire de la rencontre entre la photo et le pavillon, elle est lointaine. Et puis, aussi, il y a celle de la rencontre tout simplement de Montpellier avec la photo, puisque dès 1839, c'est-à-dire dès l'année de la divulgation du procédé devant les académies des sciences réunies, par François Arago, qui était secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences, député astronome.
François Arago, Perpignan, en plus.
Estagel, plus précisément.
Ah, voilà, très bien.
Qui était des Pyrénées-Orientales.
C'est ça.
Et l'année même de la divulgation du daguerréotype, des essais ont été faits près du jardin botanique par à la fois des passionnés réunis, donc opticiens, physiciens, universitaires, qui s'étaient réunis pour faire un espèce d'essai premier de daguerréotype.
Ça, de découvrir.
Voilà. Donc il y a une espèce de première image montpelliéraine, et ce que j'adore là, c'est que cette image a disparu, mais on en a des témoignages. On a des témoignages de ce grand moment.
Écrit.
Voilà, exactement.
Très bien. Bon, voilà le fil de l'histoire à nouveau noué. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder quand même vers le futur. Dans les prochaines années, à grands traits, quels sont les axes, les lignes de force, la conception générale des expositions que vous allez nous proposer au fil des années?
Alors déjà, pour cette année, puisque le programme concerne cette année avec deux expositions, l'idée, c'est d'alterner...
On en parlera, mais allez-y.
Voilà, l'idée, c'est d'alterner des expositions qui sont à la fois thématiques et collectives avec des expositions qui sont monographiques, c'est-à-dire de permettre au public de vivre des expériences d'expositions différentes, à la fois avec la monographie, la rétrospective.
Autour d'un photographe, non ?
Oui, et nous, ce qu'on va vous proposer, c'est une rétrospective, hein, donc c'est pas un angle, mais vraiment un travail de fond, de recherche. Et bien, avec la monographie, on va plonger dans une œuvre, dans un personnage, et avec la collective, c'est des sensations très différentes, qui sont plus de l'ordre de liens entre les choses, etc. Donc, des expériences de visite différentes. L'idée de faire du pavillon un laboratoire, j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire un laboratoire de recherche aussi, de comment faire des expositions, de la médiation avec les services de la ville concernée, comment réinventer ça à chaque fois avec chaque projet, avoir une approche dans la... Enfin, moi, mon approche, si vous voulez, elle s'intègre, j'espère que je ne vais pas aller vers une autre question en avant, mais dans la lignée complètement de Gilles Morat, c'est-à-dire l'idée, c'est de faire des expos qui soient... à la fois érudite, mais accessible, toujours accessible. L'accessibilité, vous savez que le pavillon, depuis longtemps, maintenant, depuis toujours, est un lieu gratuit. C'est extraordinaire et c'est exceptionnel en France. C'est un lieu gratuit.
Dans les lieux dédiés à la photo, c'est rare.
Mais moi, j'en connais pas d'autres. Ah, les centres d'art. Il y a des centres d'art à Pontaucombo, le centre photographique d'Île-de-France. Les centres d'art sont gratuits. Mais là, on est dans une offre quand même d'excellence, avec de type muséal, mais avec un accès gratuit, avec une popularité. Il porte vraiment bien son nom, le pavillon populaire, qui est extraordinaire, puisqu'il y a dans les 600-700 personnes par jour, là, avec Depardon, évidemment. Depardon, c'est une star.
Mais c'est une star montpelliéraine.
C'est une star en plus montpelliéraine, exact. Et c'est une star nationale et mondiale. Hein. Donc, c'est vraiment... les gens font la queue, etc. Mais donc, accessibilité, des expos aussi érudites scientifiques, il s'agit des expos de recherche. On veut révéler des choses nouvelles, on veut avoir un angle nouveau, on veut montrer les choses autrement. Et puis, moi, je tiens beaucoup aussi à l'alternance entre ce qui est de l'ordre de la pépite inconnue et puis de l'icône.
C'est-à-dire les pépites en découverte.
Voilà, les découvertes.
Et l'icône, bon, je crois connaître.
Et exactement, alterner les deux. Pour pas montrer toujours des choses qu'on connaît déjà et pas non plus être tout le temps dans la découverte, mais voilà, montrer les deux, les faire cohabiter aussi. Et puis, une chose que je trouve aussi très intéressante, parce qu'il y a des richesses sur le territoire et sur tous les territoires qui, pendant longtemps, qu'on a un peu mis de côté, qu'on oubliait et qui sont dans les collections aujourd'hui, à la fois privées sur le territoire et dans les archives publiques, que ce soit les archives municipales, départementales, l'université, qui regorgent d'énormément de fonds, mais aussi de se saisir des expositions, de se saisir du lieu qui est en cœur de ville, pour aussi faire connaître à tous les publics, pas seulement aux Montpelliérains, mais aux Montpelliérains évidemment, mais aussi aux autres qui viennent pour connaître, découvrir les spécificités de production locale ou d'archives locales.
Alors ça, c'est votre feuille de route que vous avez longuement décrite. Bon, donnons quelques précisions sur les prochains rendez-vous. Donc la première exposition qui s'appelle « Première fois, première photo » au pluriel, va démarrer donc le 1er novembre. Quelles sont les caractéristiques, vous l'avez un peu dit, qu'est-ce que vous allez nous faire, montrer ou démontrer?
30 juin, pardon.
Ah oui, d'accord, je me suis trompé, c'est la première fois. Du 1er juillet au 1er novembre, exactement.
Ouais, voilà, vernissage le 30 juin.
Voilà, c'est ça. quelles sont les caractéristiques de ce que nous allons découvrir à votre initiative?
Alors, je me permets de répéter la date, parce que c'est vrai que c'est important. Donc, vernissage le 30 juin et... ouverture le 1er juillet, l'expo finit 1er novembre et Lucien Hervé commence en décembre. Alors, première fois, première photo. Vous savez qu'on est en plein dans le bicentenaire de la photographie. D'ailleurs, l'expo est dans ce contexte aussi, national et international.
C'est la belle, quoi, en tout cas.
Voilà. Eh bien, dans ce contexte du bicentenaire, l'idée, c'était de faire une expo d'histoire de la photo, qui nous parle de l'histoire de la photo, mais avec un angle original, avec un angle qui ne soit pas celui qui est répété depuis toujours dans les histoires de la photo. J'ai choisi de travailler autour du sujet de l'image première. Qu'est-ce qu'une première image? Et ça touche à tellement de choses, c'est tellement passionnant que, enfin, voilà.
Il a fallu faire des choix, là.
Oui, il a fallu faire des choix. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a différentes entrées dans ce sujet. Au cœur de l'exposition, un dialogue avec des photographes, des grands photographes, qui avaient à la base été initiés par Agnès B., la styliste et collectionneuse, qui avait demandé, dans les années 80, à des photographes européens de lui envoyer leurs premières photos. Cartier-Bresson, Boris Mikhailov, Édouard Bouba, etc., Mario Giacomelli. Je suis partie de ce corpus en collaboration donc avec Agnès B., la collection Agnès B., et je suis allée continuer en fait cette enquête. Et avec l'aide aussi de François Hébel, l'ancien directeur des Rencontres d'Arles, qui s'était aussi intéressé à ce sujet, qui avait suscité le même genre de questions, en fait, de réponses auprès de photographes de Magnum. Et moi, j'ai continué avec des photographes plus contemporains. Donc, au cœur de l'exposition, cette question de la rencontre. Parce que qu'est-ce qui nous, la rencontre avec la photographie. Les photographes, qu'est-ce qu'ils nous racontent quand on leur dit c'est quoi votre première photo ou votre première fois en photo? Et bien, ils vont vous dire, et c'est très émouvant, comment leur premier appareil photo. Souvent, c'est le père qui leur offre leur appareil.
Oui, donc ça
leur
remonte appareil. Souvent à leur enfance ou à leur adolescence.
Voilà. Et donc, c'est vraiment voilà, une plongée dans un peu la rencontre de ces photographes avec le médium. Et puis, en même temps, eh bien, il s'agit d'explorer la question de l'innovation en photographie. On va montrer, et c'est la première fois à Montpellier, le premier daguerreotype de Daguerre. On va montrer aussi les premières images de Niépce de 1927. Pas la première photo au monde, parce qu'elle est au Texas, à Austin, à l'université, mais un travail d'un artiste contemporain catalan, Joan Fontcuberta, qui a réinterprété aujourd'hui numériquement cette image. Donc, dans l'expo, il y aura aussi des liens entre le contemporain et l'ancien.
Vous l'avez dit tout à l'heure, dans vos grands axes, voilà. Il se présentera là
une
aussi.
Une expo qui va être ludique aussi. On présente pour la première fois aussi une archive inédite, celle de l'Institut National du Patrimoine Industriel, l'INPI, les brevets et les marques de fabrique. Eh bien, la France est le seul pays à avoir conservé les photographies des brevets.
Et certains donc, cette mémoire-là que vous allez exploiter.
Voilà, ça, c'est du 19e. Donc c'est intéressant et un peu nouveau aussi pour le pavillon. C'est, parce que la photo historique, c'est pas que le 20e siècle, c'est aussi le 19e. Et souvent, on a une idée du 19e siècle, la photo un peu jaunie, un peu...
Oui, un couple très raide devant l'objectif, dans ses habits de dimanche.
Exactement, mais c'est, voilà. Et en fait, là, on va montrer à quel point la photo est... 19e et innovante. Ces photographes-là, c'est en fait les premiers. En fait, c'est la jeunesse de la photographie.
Oui.
Voilà, ils opèrent à un moment où tout est possible, tous les supports, toutes les substances, toutes les techniques. Ils inventent des choses qui résonnent tellement avec aujourd'hui. Par exemple, la photo par pigeon voyageur, la photo par cerf-volant, ça résonne avec les drones. Voilà. Donc voilà, plein de ponts comme ça entre la 3D. La 3D, on pense tous, on a un imaginaire américain de la 3D. Et bien en réalité, Duco Duron qui la met au point, premières images en 3D, il est en Algérie et ses premières vues en 3D représentent la Casbah d'Alger, représentent des femmes
au 19e.
Musulmanes au 19e.
Ah, oui. Donc voilà. Alors, il y a pas plus parce que du coup, ça va.
Il y a plein
de curiosité titillée. Alors, deuxième programmation, donc l'expo qui va suivre dès le 9 décembre, donc elle s'appelle Ombre et Lumière. Au singulier, dont le commissaire de l'exposition a été confié à Virginie Chardin, une historienne de la photographie comme vous. Alors, qu'est-ce que cette exposition va nous révéler? Dites-nous en quelques mots.
Alors,
le temps passe, donc, mais alors, vous avez le temps de, quand même de nous mettre en appétit.
L'idée pour moi, quand j'ai proposé ces deux expos à Montpellier, c'était de créer du lien avec la ville, de créer du lien avec Montpellier. Donc la première, elle intègre, je ne vous l'ai pas dit, des fonds, des images qui proviennent de collections qui sont sur le territoire, jusque dans les Pyrénées-Orientales. Par exemple, la première photo sous-marine qui a été faite à Banyuls et qui a été un scoop dans le monde entier. Et avec Lucien Hervé, qu'est-ce qui m'a intéressée là? C'est ce lien à la ville, ce lien à l'architecture, à la lumière. Et je me suis dit, faire une expo en lien avec la ville, c'est pas forcément en lien avec ses représentations même, mais avec ses imaginaires. Et moi, Vous le savez, j'ai habité à Montpellier, j'y ai travaillé, j'ai aimé cette ville et je l'aime toujours. Et quand j'y suis revenue, comme j'ai beaucoup travaillé aussi à l'étranger entre-temps, quand j'y suis revenue récemment, j'ai été frappée par les métamorphoses de la ville, par les métamorphoses architecturales, par aussi ce que j'avais oublié, c'est ces façon dont la lumière, elle va toucher des façades, les transformer. Quand on ferme un peu les yeux, on est ébloui. Ce rapport de l'ombre à la lumière, ce rapport aussi à la découpe avec les bâtisses qui surgissent, etc. Et Lucien Hervé, c'est un photographe de l'ombre et de la lumière. D'ailleurs, le titre qu'a choisi Virginie Chardin, la commissaire spécialiste que j'ai invitée pour faire cette monographie rétrospective, a appelé l'exposition « Ombre et lumière ». Et il s'agit vraiment de ça, d'une rencontre avec l'architecture, avec la ville en général. Et Lucien Hervé, il s'est intéressé autant aux architectures, très contemporaines, c'était notamment le photographe du Corbusier, qu'aux architectures traditionnelles. Et c'est aussi dans ce lien entre l'historique et le très contemporain que le dialogue se fait.
Et puis le rapport à la ville, l'urbanité, ou le rapport avec l'espace urbain.
L'urbain, et avec l'engagement aussi, parce qu'il y a quand même une tradition très forte d'engagement avec la photographie à Montpellier au Pavillon Populaire. Lucien Hervé était un homme très engagé.
Alors moi, j'ai dit quand on prépare l'émission qu'il y a déjà eu une exposition de Lucien Hervé autrefois que Gilles Morat avait conçue.
Ah mais pas du tout au Pavillon Populaire. Mmh. En fait, Gilles Morat, pendant, je ne sais plus si c'est une année ou plus, il a été directeur artistique des Rencontres d'Arles.
Ah oui, d'accord.
Et parmi les pépites d'expos qu'il avait faites, il y en a une qui m'avait beaucoup marquée, c'était une expo il avait découvert chez Didier Brousse, le galériste qui est un tireur de Lucien Hervé, il avait découvert des tirages de Lucien Hervé, qui était encore vivant à l'époque, et il avait fait une exposition à Montmajour, dans un lieu pas très accessible, donc avec c'était Didier Brousse d'ailleurs qui avait fait l'exposition de Gilles Morat, qu'il avait programmé. Et donc pour moi, c'était aussi un petit clin d'œil à Gilles Morat, un hommage à un photographe que je sais qu'il adore, et de programmer cette deuxième exposition.
Alors, on arrive à la fin de l'émission, madame, mais une dernière question. Fin février, Michael Delafosse a donné une interview au web magazine Locaux. Il présente une ample vision de la place de la culture à Montpellier et il parle, quelques minutes, de la photo en ces termes. Je le cite. « Je ne l'ai pas écrit dans mon programme pour les élections municipales, mais j'aimerais qu'il y ait annuellement une commande photographique sur Montpellier, les Montpelliérains, un artiste ou un collectif qui pourrait travailler sur un thème, la lumière, l'architecture, l'amour. » Point de suspension. Quand il a dit ça, il était candidat. On sait qu'il vient d'être réélu maire. Alors, son idée peut-elle devenir un projet ? En savez-vous quelque chose ? Est-ce que vous avez échangé sur ce sujet ? En tout cas, est-ce que c'est sur la table de vos échanges futurs avec le maire de Montpellier ?
J'espère que c'est sur la table d'échanges futurs parce que je trouve l'idée absolument géniale. Elle combine trois choses. Il y a l'idée de la commande qui est aussi quelque chose historiquement dans l'histoire de la photo. La France a été un des premiers pays en 1851 à passer la première commande publique à des photographes. Il y a eu aussi la DATAR et commande d'État. Si vous allez au pavillon populaire, et là, ce qui était génial, c'est de donner la parole à des photographes auteurs sur un territoire. Et puis, donc il y a la question de la commande, il y a la question de la régularité. Vous avez dit, annuel. De données annuelles extraordinaires, parce que là, qu'est-ce que ça permet ?
Il faut un peu d'argent pour ça, mais bon.
Voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire activer la création, la mettre en lien avec la ville, avec l'atmosphère, etc. Alors, c'est des choses qui... Et susciter des fonds aussi. Ça veut dire que ces images-là, après, elles peuvent peut-être rentrer dans les collections du musée Fabre. Je ne sais pas, elles peuvent donner lieu à des expos. Donc, c'est très riche. Donc, il y a donc la commande, la régularité et le fait donc de s'adresser à des artistes pour générer un regard d'auteur. Moi, dans le cadre, par rapport à ce que je vous disais, des métamorphoses de la ville de Montpellier, de ces transformations qui sont aussi très douces, mais qui sont spectaculaires quand même. Je pense que ce serait vraiment bien d'accompagner, de faire de telles commandes. À 7, pendant le Festival Images Singulières, on fait ça régulièrement quand ils existaient encore. Ils invitaient un photographe auteur
à porter son regard sur la ville pendant un séjour.
Et c'était extraordinaire. Pendant un séjour, c'était extraordinaire. Parce que c'est toujours inattendu, c'est toujours...
Bon, alors donc on va mettre des points de suspension là, qui sont même aussi un point final, madame. Bon, je pense que chacun maintenant est suffisamment informé pour aller faire un tour dans les semaines et mois qui viennent du côté du pavillon populaire. Je vous remercie, madame.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Reine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpellier-Reine pure jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.